Claude, on parle d'une jeune femme.
Que son amoureux néglige, sait-elle. Alors elle l'importune, papillonne, lui vole des baisers, lui fait des scènes. « Quittez-moi !» lui dit-elle. « Pourquoi moi » répond-il. « Parce que j'en suis incapable, il faut qu'on arrête, c'est trop difficile. »« C'est bien d'avoir tenté l'impossible », répond alors François Mitterrand. À Claire qu'il aime et qui est son dernier secret, Le Monde le dévoile sur son site, dans les bonnes feuilles d'un livre, signé de la grande journaliste Solène de Royer, que l'on devine pudique et malaisant. De 1988 jusqu'à sa mort en 1996, François Mitterrand aima une jeune fille de 50 ans plus jeune que lui. Claire, que chaque jour pendant 8 ans il réveilla, elle a gardé les messages qu'il laissait sur son répondeur téléphonique, des cassettes chuintes d'une voix d'autrefois. Claire, que Mitterrand compartimentait puis moquait, il la surnommait la gare de Perpignan de Dali parce qu'elle croyait être le centre de son monde. Il lui disait « Tu es obsédée par ce que je ressens pour toi ». Claire, à qui son amoureux, si vieux que la mort guettait, disait la peur d'un accident et puis ceci, « S'il m'arrive quelque chose, ne reste pas, tu fileras par cette porte, je ne veux pas qu'on t'accuse. » Et j'ai pensé, lisant ceci, que Mitterrand avait peur aussi que son nom devienne une moquerie salace comme celui de Félix Faure, président de la Troisième République, mort dans les bras de son amante, mais je me trompe peut-être. Mitterrand avait fait connaître à Claire les lettres de Clémenceau à son dernier amour, Marguerite, tellement plus jeune aussi, « Je vous aiderai à vivre et vous m'aiderez à mourir. » Vous lirez dans l'Obs des mots d'un homme déjà vieux qui pourra illustrer l'étrange amour de la jeune Claire. Il y a de l'implicite, du non-dit, du clair-obscur dans toutes les relations. L'amour est une emprise, une aliénation positive qui nous révèle à notre corps et à notre cœur défendant que la liberté n'est pas la valeur ultime. Ces mots sont d'Alain Finkielkraut. Dans un long dialogue tendu avec une femme plus jeune que lui, Alice Coffin, essayiste et militante féministe, dont le livre « Le génie lesbien » fut pour Finkielkraut une souffrance et dont les thèses le font trembler. « Je suis mort de trouille », dit l'académicien, qu'Alice Coffin trouve gentil mais elle ne comprend pas pourquoi sur le féminisme il devient faible. La rencontre vaut mieux qu'une juxtaposition de certitudes inaliénables l'une à l'autre. Elle vaut bien plus que cela, chacun y gagne. Finkielkraut se révèle émouvant, comme celui qui défend le temps qui glisse face à la jeunesse. Coffin se révèle solide, au-delà des slogans, sur les structures d'une société inventée par les hommes et puis cultivée. La littérature n'est pas vôtre, dit-elle à Finkielkraut. Elle a lu les livres auxquels il se réfère, mais lui connaît-il la littérature féministe qui vient et qui est ? On se dispute Virginia Woolf, on s'écoute. La guerre, espère Finkielkraut, peut céder place à la conversation. Ce n'est pas rien dans nos temps de folie. À la une du Berry Républicain, à propos de la vaccination des adolescents contre la Covid, vous verrez une photo bouleversante. Contre l'épaule ronde et fraîche d'un jeune homme, les mains d'un vieux médecin, fripées, ridées, cavelées presque, toutes en tendons, tiennent l'aiguille du vaccin. Et c'est comme un don.
On parle aussi d'une amitié.
Qui nous vient encore de jadis dans Libération. Libé qui, comme Le Point, accueille ce matin Robert Badinter pour qu'il redise son grand combat. Il y a juste 40 ans, un vote du Sénat nous libérait de la peine de mort. Le garde des Sceaux Badinter, vous le lirez dans les télégrammes, avait écrit son discours contre la peine capitale dans la paix d'un été breton à Doellane, dans une maison prêtée par les écrivains Benoît Tegrou et Paul Guimard. Mais plus que Badinter, c'est un autre avocat chenu qui va vous accrocher dans Libération. Alain Freitag, en 1972, trentenaire ému, avait défendu et sauvé un homme devenu meurtrier dans l'Aisne, dans une bagarre de bar ayant mal tourné. Maurice Insolin, dit Titis, avec lequel la vie n'avait pas été douce. Son père résistant fusillé en 44, il avait grandi comme un champignon. Un psychiatre le qualifiait de mayonnaise ayant mal tourné, et un journaliste écrivait de lui, si c'était un chien enragé, on l'abattrait. Freitag avait donc sauvé Titis, qui de sa prison pendant 18 ans et au-delà, écrivit à l'homme d'un monde qui lui était interdit. Alain répondait, il parlait de leurs enfances et de leurs amours. Titis sortit de prison, épousa Claudine, ils eurent 3 enfants. Mais comment trouver du travail, comment vivre, hanté, comment ne pas boire? En 2014, Titis se suicida, son ami écrit un livre sur lui. Vous lirez dans la dépêche qu'un groupe complotiste veut s'installer dans une sublime demeure d'un sublime village du Quercy, Sénéa-Clauzès. Les villageois ont les jambes coupées. Vous lirez dans la montagne que l'association UFC Que Choisir embête des producteurs de Cantal et de Saint-Nectaire qui ne respecteraient pas leur cahier des charges. Ce sont nos peurs d'aujourd'hui.
Et on parle aussi d'avenir, Claude.
Et l'indépendance s'arrache à la ferveur qui monte autour des dragons catalans, fierté du 13, qui ce soir, sans complexe, dit l'équipe, chercheront une place en finale de la Super League. L'indépendance s'en arrache donc pour nous dire qu'à Carcassonne, l'école nationale d'aviation civile forme ses jeunes pilotes à bord d'avions électriques dont le moteur fait un bruit de ventilateur. Le Figaro nous dit qu'en Scandinavie, on construit des gratte-ciel en bois et qu'en Italie, la piste d'essai automobile aménagée au sommet de l'usine Fiat de Lingotto est transformée en un jardin suspendu. La famille Agnelli est fière. Vous lirez dans La Vie un superbe dossier sur nos forêts qu'il faut sauver et serez touché par la pitié infinie d'une statue de Saint-Marc qui veillait sur la forêt du Vieux-Dun dans le Morvan, dévastée par la maladie. Mais les avenirs existent. Lisez dans La Provence que les sols pollués seront lavés par des champignons qui absorbent les métaux lourds, fertilisés par des petits pois qui fixent l'azote et puis régénérés par des fourmis qui le labourent. Ce sont d'antiques sciences que théorisent des chercheurs du CNRS. Le passé nous sauve. J'entends Fink et le gros sourire. Cela lui va bien.
Merci Claude pour cette revue de presse. France Inter.